imaginaire collectif et solidaire s'est créé lors de la pandémie. Il a émergé pour lutter contre les injustices sociales accentuées durant la crise sanitaire. Des initiatives d'entraide ont vu le jour et donné consistance à des modes d'auto-organisation. You Are Here souhaite rendre audibles les récits des habitantes invisibilisées de Bruxelles et cartographier ces gestes de résistance qui modèlent une société du prendre soin.
En 2018, une amie nous a proposé ici à la maison d'accueillir quelqu'un avec bracelet électronique pour lui permettre de sortir de prison dans le cadre du procès qui est appelé par les médias le procès des hébergeurs et par les soutiens le procès de la solidarité, dont on avait entendu parler mais dont on ne connaissait pas les détails. Voilà, il nous a parlé un petit peu de lui et on a accepté d'héberger Alla. Les démarches ont été vraiment ralenties et du coup, il est sorti que la veille du procès. Donc il arrive à la maison la veille du procès, il venait de passer 13 mois en prison. Alla, Mahmoud, Hassan, Mustafa, Hussein, Abdallah, Ibra, Walid, Zakia, Anouk, Myriam.
Mon avocat plaide en expliquant ma situation sociale, qui je suis, que j'ai un enfant en bas âge. La juge, à ce moment-là, va faire un truc très spécial, que je ne pourrai jamais oublier de ma vie. Elle va dire à la traductrice de me demander
« Qu'est-ce que ça lui fait si je l'envoie en prison ?»
Je réponds que ce serait la catastrophe. Ce à quoi elle répond
« Ok. Dis-lui qu'elle va en prison. »
Tout mon monde s'écroule en quelques secondes.
Quand je dis « on » ou « nous », c'est nous qui habitons une maison collective à Molenbeek et qui avons pu accueillir Alla et pas mal de personnes de passage aussi ici, quoi. Donc en fait, ce procès dit des hébergeurs inculpe principalement des personnes migrantes de trafic d'êtres humains et organisations criminelles. Alla, Mahmoud, Hassan, Mustafa, Hussein et Bush, c'est son surnom, sont les personnes sans papier qui ont fait beaucoup de prisons préventives. Les deux journalistes qui ont accueilli des migrants, donc Myriam et Anouk, qui ont été arrêtés, perquisitionnés, ont été tout de suite relâchés. Zakia, qui était bénévole au parc Maximilien, Zakia a fait 2 mois de prison parce qu'elle est binationale, belgo-marocaine. Et puis Walid, qui vit à Bruxelles depuis longtemps et qui a hébergé l'un des inculpés. Et Walid a fait presque 1 an de prison parce qu'il est tunisien. Et ça, c'était à Dendermonde, jusqu'à ce que des avocats un peu concernés se ressaisissent du dossier et disent que la plupart des inculpés étant francophones, le dossier pouvait être transféré à Bruxelles. Et donc le dossier a été transféré à Bruxelles. Et il y a pu avoir une défense correcte qui se met en place. Parce qu'à Dendermonde, c'était des avocats commis d'office ou des avocats qui ne s'intéressaient pas spécialement à leurs inculpés, mais plutôt à leur salaire. Et la défense était juste catastrophique, quoi.
La juge d'instruction me fait rentrer. On lui explique que mon avocat n'est pas là. C'est alors mon premier contact avec cette femme qui doit être vachement aigrie dans sa vie. Et elle voit une avocate dans le couloir et elle dit
« Mais elle peut être son avocate. »
Je me dis « Mais c'est quoi ce bordel ? On va désigner des gens dans le couloir et ils vont être mon avocat comme ça ?» Moi j'ai dit « Ben non, je ne veux pas. » La juge répond en commençant un peu à s'exciter
« Si c'est comme ça, on va rester ici jusqu'à 19h. »
J'ai vraiment eu le sentiment que ce n'était qu'une formalité pour elle, parce que sa décision était prise, et qu'elle s'en fichait probablement de tout ce qu'on allait amener comme argument.
Donc Alla est arrivée la veille du procès, on a suivi un peu le procès ensemble, on était en contact avec Zakia qui était proche de Alla et Mahmoud à ce moment-là et qui était très présente autour de la démarche pour le faire sortir, etc. Mahmoud, lui, il était sous bracelet chez un voisin. Et Zakia venait souvent apporter des friandises à la maison. Et puis quand, de proche en proche, on a rencontré Hassan et Myriam qui habitaient pas loin. À ce moment-là, ils habitaient près du canal. Et du coup, il y a un moment, voilà, on s'est retrouvés ici à faire du ping-pong et des goûters et des repas. Et puis voilà, on a pu vraiment se rencontrer et avoir une idée plus claire des détails de l'affaire et des rôles des avocats, des juges d'instruction, etc. Et c'est comme ça qu'est née vraiment l'idée de recueillir tous les récits. Et on savait pas à l'époque encore trop ce qu'on allait en faire, mais ça nous semblait évident, avant que tout le monde se disperse à la fin du procès, de garder trace de tout ça, quoi.
La procureure me posait une question, et quand je répondais, elle me disait
« Tu mens. Non, tu mens. »
À chaque fois que je répondais, elle disait
« Tais-toi. Arrête de parler. »
C'était une manière étrange de mener l'interrogatoire.
Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on discute avec eux et quand on commence à s'intéresser aux politiques migratoires en général, c'est que ces personnes migrantes, c'est des gens qui dorment au parc Maximilien, qui se font aider pour avoir des clopes, pour se faire soigner leurs dents et qui peuvent pas se payer un loyer. C'est des gens qui n'ont pas réussi à passer et qui se retrouvent à essayer de se débrouiller avec des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour monter dans des camions, qui se sont construits un petit savoir-faire autour des tentatives de leur propre passage et qui se disent, ben voilà, comme ça j'aurai de quoi survivre au jour le jour en attendant que la situation s'améliore, quoi. Je suis pas en train de faire de l'innocentisme et de dire que tout le monde a les mêmes propres là-dedans. Je dis juste que les politiques migratoires font que des personnes sont poussées à de la débrouille et de l'entraide qui sortent du cadre légal strict et qui font que la survie pousse à... Comment dire ça ? Je sais pas, ça me paraît tellement évident. Comment le formuler ?
La policière n'arrêtait pas de répéter...
Ne bouge pas ! Ne bouge pas !
Je ne bouge pas. Pourquoi vous avez besoin de vous comporter comme ça avec moi ? Elle m'a dit...
Tais-toi ! Ne parle pas !
Et elle m'a donné un coup au visage. Après ce coup, j'étais sonné, je ne voyais plus rien. J'étais tombé au sol, ils riaient. Ils ont attendu que je sois immobile par terre, que je me sois tu, et ils m'ont traîné au sol jusqu'à la voiture. Ils m'avaient mis un tissu sur la tête, je ne voyais plus rien. Chaque fois que j'essayais de lever la tête, ils tapaient dessus, ils me bousculaient. J'avais les mains attachées derrière mon dos. Il m'étranglait. J'étouffais. Je n'arrivais pas à respirer.
Et ça a été, prenant d'habiter un peu cet écart entre les versions des inculpés et les versions officielles. En fait, tous ceux qui ont, je pense, assisté à ce procès, pas mal d'hébergeurs qui étaient venus en soutien et qui craignaient pour leur propre personne. Sont venus un peu en se disant « Ouh là là, trafic d'êtres humains, attention, on espère que les hébergeurs vont s'en sortir et les migrants, on sait pas trop quoi. » Et puis, en fait, tout s'est dégonflé au bout de 3 jours d'audience et la plupart des gens se sont rendus compte, en fait, de l'ampleur du montage policier, en fait. Les dossiers, quand on allait dans le détail, en confrontant les éléments aux versions des inculpés et aux preuves disponibles, la plupart étaient vides, quoi. Il y avait rien, c'était tout s'est dégonflé vraiment au fur et à mesure. Et en fait, le fait reproché principal qui justifie trafic d'êtres humains, organisation criminelle, c'est le fait de tirer un avantage patrimonial. Donc, soit d'avoir gagné de l'argent, ce qui s'est révélé ne pas être le cas pour l'écrasante majorité des personnes inculpées. Et pour certains migrants, c'était quelques billets, quoi. Je crois que c'est maximum 2000 euros. Si c'est pas l'argent, c'est le fait de gagner la possibilité de passer. Donc travailler pour un passeur, filer un coup de main à un passeur, l'aider à porter des valises, à contacter des gens, à ramener dans les parkings ou à fermer des portes de camions, pour avoir peut-être un jour la chance de passer soi-même en Angleterre et que le passeur les fasse passer. Donc c'est-à-dire, ils sont accusés d'avoir mis en danger des victimes et d'en tirer un avantage patrimonial. Et cet avantage patrimonial, c'est de devenir soi-même victime d'un passeur pour pouvoir passer en Angleterre. Donc c'est juste absurde, en fait. C'est une fiction. C'est des dossiers 100% à charge. Ça, on a pu le découvrir parce que il y a des avocats qui ont fait le travail systématique de confronter chaque élément du dossier avec les inculpés et avec les preuves disponibles. Sauf que de fait, des avocats comme ça, c'est rarissime. Il y en a très peu. Haider, Sami, Mohamed, Yoda, Ahmed, Moïse, Haïssam, Farah. En fait, il y a un ami, donc c'est un ami soudanais qu'on a rencontré l'année dernière, et on s'est rendu compte petit à petit que c'était un proche de personnes qui ont été inculpées aussi dans le cadre d'un procès pour trafic d'êtres humains et organisation criminelle, qui a été appelé le procès des 10 Soudanais, même si en fait il n'y a pas que des Soudanais, que c'est possible qu'il soit 11 et qu'il y a aussi des Libyens. Enfin, bon, voilà, c'est difficile d'avoir un peu tous les détails. On a mis longtemps à comprendre un peu de quoi il s'agissait vis-à-vis de ce procès, moi aussi parce qu'il y a une espèce de honte et de difficulté à parler de ça. L'accusation est tellement grosse, l'imaginaire que ça mobilise est tel que c'est pas forcément évident d'en parler à n'importe qui d'emblée. Et c'était vraiment le même type de procès avec le même type de dossier, le même type de montage. De nouveau, c'était des personnes qui dormaient dans la rue, dans des occupations et qui avaient du mal à s'en sortir, à survivre. Les conditions de vie de ces personnes sont en complète contradiction avec la gravité des faits reprochés, quoi.
J'ai compris que j'étais pris dans une affaire qui n'était pas la mienne et que j'allais payer pour quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai expliqué à la procureure que je n'avais jamais rien touché ici en Belgique, pas un centime. Je suis arrivé ici avec quelques centaines d'euros et j'ai tout perdu. À la fin, elle m'a dit que j'étais un individu dangereux pour la société, qu'il fallait que je sois incarcéré à la prison de Dendermonde. Je me suis tourné vers mon avocat et je lui ai dit « Mais je suis innocent, je n'ai rien fait ». Dites quelque chose. Il a dit
« Désolé, je ne peux rien faire. Je ne peux rien dire. Je ne connais pas ton affaire. Je n'ai pas lu ton dossier. »
Et donc la plupart des inculpés, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en fait beaucoup d'autres procès de ce type, ce qui n'était pas médiatisé parce qu'il n'y avait pas d'hébergeur parmi les inculpés. Ces personnes sans papier se retrouvent avec des avocats jeunes, prodéo, indifférents la plupart du temps à leur sort, ou alors très impressionnés par les juges et par l'ampleur du dossier et le caractère un peu effrayant des accusations, et qui se disent « on va limiter les dégâts en plaidant coupable ». C'est souvent ça qui se passe, en fait. Et donc c'est la merde. La plupart de ces procès, les gens comprennent pas ce qui leur arrive, ils comprennent pas pourquoi ils sont en prison, personne ne leur traduit le contenu du dossier, ils savent même pas pourquoi ils sont inculpés. La plupart se retrouvent en préventive pendant un an. Certains sont même pas amenés devant le juge. Certains deviennent fous. Et ils se retrouvent victimes aussi de chantage. Si tu dis pas que t'es passeur, tu reverras pas ta famille, tu sortiras pas de prison. Et donc certains plaident même coupables. Dans le procès de la solidarité, en gros, les personnes avec papier bruxellois ont été acquittées ou suspension du prononcé. Et tous les migrants ont eu des peines entre 40 000 et 360 000 euros d'amende et de je sais plus combien de mois de prison, enfin des peines énormes. Et le parquet ayant fait appel de toutes les décisions, quelques mois avant le procès, on s'est mis un petit peu à la pression pour qu'un livre sorte, quoi. Que leur vérité sorte avant. Donc le livre, ça s'appelle « Welcome, 7 personnes inculpées pour trafic d'êtres humains témoignent ». Bah, tout s'est fait de proche en proche, hein, donc on a trouvé des amis arabophones pour pouvoir recueillir en tout cas la version des Égyptiens, parce qu'on n'a pas rencontré les Soudanais. On a contacté Luc, qu'on connaissait par ailleurs, qui est aux éditions Antidote, qui a accepté avec joie ce projet. Voilà, ça posait plein de questions du fait que tous les inculpés n'étaient pas présents, puisque le recueil s'est fait plutôt de proche en proche. Par exemple, Anouk, l'autre journaliste, n'est pas dans le livre. Hussein et Abdallah ne sont pas dans le livre non plus. Et il nous semblait important de faire le plus de place possible aux personnes migrantes, hein, qu'elles ne soient pas invisibilisées par les personnes qui avaient été médiatisées lors du procès. Du coup, donc le procès en appel, on s'est retrouvés le matin pour la mobilisation. Il y avait eu l'autorisation pour se retrouver tout derrière le palais de justice, là où personne ne nous voit, pendant une petite heure avant les audiences. Voilà, c'est quand même important que ça ait lieu. Il y a pas mal de monde qui se sont retrouvés ce jour-là. Et les proches des personnes du procès des 10 Soudanais, dits des 10 Soudanais, ont pu aussi intervenir. Et voilà, c'était important que ce procès-là soit un peu plus visibilisé. Ça a été vraiment pris en compte dans la plupart des interventions. Et après, ça a été un peu le jonglage parce que les conditions avec les mesures sanitaires faisaient qu'on n'avait quasiment pas accès à la salle. En plus, c'était pour la salle des Soudanais en néerlandais et la plupart des soutiens sont francophones. La moitié des personnes présentes dans la salle sont des policiers. En plus, certains sont restés en prison, comme au procès en première instance en juin, où l'une des personnes n'a pas été amenée non plus devant la juge. Ça a été quelque chose de traumatisant pour lui de faire plus d'un an de préventive, de n'avoir jamais été amené devant le juge, même à son propre procès. Je pense qu'en termes de sentiment de persécution, on peut faire difficilement pire, surtout quand on a très mauvais avocat qui plaide contre sa propre volonté coupable. Voilà, et après au niveau de la défense, ben, procès de la solidarité, une plaidoirie des avocats que j'ai trouvé important, c'était de recontextualiser le procès, c'est-à-dire ces enquêtes et ces inculpations ont été faites alors que la droite dure était au pouvoir et qu'il y avait une traque systématique dans le parc au niveau policier et au niveau judiciaire, une multiplication de ces procès. La proposition d'analyse qui a été faite, c'était l'élan de solidarité suite au démantèlement de Calais, toutes ces personnes qui sont retrouvées par Maximilien, le montage de la plateforme citoyenne, toutes les personnes qui venaient sur place aider, monter des douches, apporter des repas, etc. C'était vécu comme une gifle par cette droite au pouvoir. Que l'effet de ce procès, c'est décourager les personnes solidaires, c'est avoir un effet dissuasif sur les personnes migrantes pour passer par la Belgique, pour essayer d'atteindre l'Angleterre.
Cette justice avait été injuste pour nous. Nous sommes arabes, sans papier. On est impuissants, on ne peut rien faire face à ceux qui ont été injustes avec nous. Sauf dire la vérité. Notre seule force, c'est celle des faits, de rétablir ce qui est arrivé, de dire notre vérité. Que j'ai été emprisonné seulement parce que je n'avais pas suffisamment d'argent pour passer en Angleterre par d'autres moyens.
L'enjeu, c'est de démonter le caractère 100% à charge des dossiers pour comprendre ce qui se passe. Et les responsabilités à tous les niveaux, et aussi éventuellement au plus bas niveau. Mais là, la question, elle est avant tout politique. Il faut pouvoir créer un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, c'est d'abord comprendre, c'est faire un travail d'enquête, recouper toutes les informations, recueillir les contre-vérités des inculpés, pouvoir les défendre correctement et créer une sorte de structure de surveillance, de sous-veillance autonome de ces politiques judiciaires, carcérales, policières, migratoires, de manière générale, quoi. Et voilà, sortir la tête de l'eau et des cas particuliers. Ça veut dire mobiliser des avocats, mobiliser des juristes, mobiliser des personnes qui visitent les personnes en prison et mobiliser des hébergeurs qui ont accès à la situation des personnes incarcérées, qui ont les contacts des avocats, qui connaissent mieux les dossiers, qui peuvent même avoir accès aux dossiers directement. Aussi côté néerlandophone, parce que c'est là où on a le moins de moyens et où on est le plus démunis.
Derrière ces histoires qu'on me racontait de « un tel est passeur » ou « tu t'es fait manipuler », je connaissais une partie de la vérité. Et celle que je connaissais était pour moi indéniable. Et ce qui est indéniable, c'est que c'était des gars paumés. Ça, je le savais. Peut-être qu'ils s'étaient mis dans l'illégalité, peut-être qu'on allait réussir à me le prouver, mais je savais que ça découlait de leurs conditions de vie qui étaient absolument atroces. Et ça, c'était quelque chose dont j'étais persuadée. Je savais qu'on n'était pas là-dedans, qu'on n'était pas dans l'organisation criminelle, dans ce délire-là. Et je me disais, mais qui va l'entendre? Qui va se soucier du sort de ces personnes? Et finalement, la réponse qui me revenait tout le temps, c'était, Personne. Personne. Personne ne s'en souciera.
C'était un entretien avec Despina, avec des citations des témoignages de Zakia, Mustapha, Mahmoud. Lu et interprété par
Marie Vaiana, comédienne.
Gaëlle Gourvenec, comédienne.
Tom Nys, poète.
Ketoura, étudiante en cinéma.
Et Manuel Vialet, musicien. Thank you.